Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présenté par Jean-Louis.
C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté.
Policiers, solitaires, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 15 juin. Pouvant être présent ce lundi matin dans les studios de Radio Libre en Périgord, cette chronique a été enregistrée à l'avance. Avant d'en venir au sujet du jour, je voudrais rappeler des rendez-vous importants qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Tout d'abord, samedi 20 juin, deux initiatives soutenues par le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée. À partir de 12h30, à la salle Jean Ferrat à Montreuil-Montancé, retransmission en direct du meeting contre la guerre qui se tient ce même samedi 20 juin à Londres, avec autour d'un casse-croûte, parce que bien évidemment ce meeting étant durant plusieurs heures, il y aura de la possibilité de faire des allées et venues entre la retransmission en direct de ce meeting et puis le panier partagé qu'il est proposé d'amener donc aux différents participants. Donc je rappelle, à partir de 12h30, samedi 20 juin, salle Jean Ferrat à Montancé, Montreuil. Deuxième rendez-vous ce samedi 20 juin, et cette fois c'est à Sarlat à partir de 16h30, de 16h30 à 18h30, pardon. C'est également une initiative en relation avec le meeting contre la guerre qui se tient donc ce samedi 20 juin à Londres, et ce sera donc à Sarlat. Et le rendez-vous pour cette initiative, c'est place du 14 juillet à Sarlat, donc à 16h30, samedi 20 juin, contre la guerre. Troisième rendez-vous, et là, nous nous reportons mardi 30 juin, au cinéma Le Rex à Sarlat, nouvelle initiative en relation toujours avec le meeting contre la guerre de Londres le samedi 20 juin. Donc, 30 juin au cinéma Le Rex à Sarlat, ciné-débat autour du film Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, et le débat qui suivra la projection du film sera introduit par notre ami et historien Pierre Roy, spécialiste des monuments pacifistes, et donc le débat, je l'espère, sera particulièrement riche. Nous vous invitons donc à venir à cette projection au cinéma Le Rex à Sarlat à 20h30, samedi 20 juin. Donc, voici maintenant le sujet que je vous propose pour cette chronique. C'est un sujet que j'extrais du dernier numéro de La Raison, le mensuel de la Fédération nationale de la libre pensée. C'est le dossier de ce numéro, Autorité et pouvoir, baptême, communion, le secret du Père et l'intelligence artificielle. L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. C'est une citation de Gaston Bachelard dans La psychanalyse du feu. Le titre de cet article provient des thèmes des cinq derniers numéros de la revue catholique internationale Communio, revue des prélats et des éminences. Cela tourne un peu sur la formule que citait pour gagner Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, Timor fecit Deus, la peur créa les dieux. La question d'autorité. La réflexion commence autour de cette remarque d'Anna Arendt de 1958, l'autorité a disparu du monde moderne. À la lumière de l'actualité, la formule est pour le moins curieuse, car nous glissons inéluctablement vers un monde autoritaire. Cela se constate chaque jour et pourtant, certains ne cessent de réclamer le retour à l'autorité comme le remède miracle à tous les problèmes de la société. Mais de quelle autorité s'agit-il? L'éditorialiste de Communio convient que l'autorité de Dieu offre un prétexte commode tous les autoritarismes. Si l'on en croit Paul, dans son épître aux Romains, tout pouvoir vient de Dieu ou est légitimement accepté par lui. Et il tire la conséquence, tout esclave doit obéir à son maître comme la femme à son mari. Autre conséquence induite, toute révolte ou révolution contre le pouvoir est une insurrection contre Dieu et l'ordre divin. L'obéissance est une vertu chrétienne et on comprend pourquoi Emmanuel Macron revendiquait de réparer le lien entre l'Église et l'État aux Bernardins en 2018. Lien rompu en 1905 par la loi de séparation des Églises et de l'État, dont on a fêté le 120e anniversaire l'année dernière. Si tout le monde obéissait à son pouvoir, cela serait beaucoup plus simple pour lui, mais c'est très loin d'être le cas. L'éditorialiste Christophe Bourgeois indique qu'aucun pouvoir ne peut se fonder sur lui-même et que l'autorité appartient à l'ordre de la transcendance divine la potestas, puissance souveraine, appartient à l'ordre de l'essence humaine, et il appelle cela la liberté. Comme l'immanence, essence humaine par définition, est inférieure à la transcendance, la potestas est soumise à l'autorité divine. Comment le peuple peut exercer sa puissance souveraine si elle ne lui appartient pas en propre, mais est conférée par une puissance supérieure? Ce n'est plus de la casuistique, c'est de l'acrobatie aérienne. Pour être bien clair sur la subordination de la société aux impératifs de l'Église, il dit, citation, « Le rapport eschatologique des chrétiens au temps politique confirme l'autonomie de la cité tout en l'ordonnant à la dynamique du salut pour que l'ordre de la charité puisse tout transformer. » Fin de citation. Cela s'appelle une liberté sous surveillance. Quant à la séparation des pouvoirs, fondement de tout État démocratique, selon Montesquieu, citation, « Le mieux serait que le pouvoir qui exerce l'autorité puisse se juger lui-même, avant, pendant et après, et surtout qu'il a appris à dire ses raisons, à justifier ses actes et à en porter les conséquences. Bref, c'est le pouvoir qui juge et le pouvoir qui se donne lui-même sa légitimité, et quand il est autorisé par Dieu, c'est la fin du fin pour l'Église. » Si l'on souhaite que la société fonctionne démocratiquement, la prudence est le mise, la situation complexe issue des Écritures et de la tradition ne peut être facilement assimilée aux attentes de leur conscience démocratique moderne. Fin de citation. C'est l'aveu que l'Église prône un système hiérarchiquement autoritaire, et c'est d'ailleurs son mode de fonctionnement interne. Elle est le modèle, l'alpha et l'oméga de tout système, car elle représente le corps du Christ. C'est d'ailleurs intéressant de connaître l'explication que présente un précédent numéro du Communio, sous la plume d'Émile Tardivel, rédactrice en chef adjointe de la version française, sur la fusion entre l'Église chrétienne et l'Empire romain, en citant saint Augustin. « Rome fut fondée comme une seconde Babylone, comme une fille de la première. Par elle, il plut à Dieu de soumettre par les armes la terre entière et de lui imposer, une fois rassemblée dans une seule communion de gouvernement et des lois, la paix dans toutes les contrées. » Fin de citation. C'était le début de l'alliance du sabre et du goupillon. Et il ajoute que Dieu, en fait l'Église, avait su transformer l'amour des Romains dans la cité terrestre en louange de la cité et du ciel. C'était sans doute le produit d'une bonne campagne de communication ou d'un endoctrinement de masse. On est en pleine idolâtrie. Et la superstition monothéiste peut rencontrer certains athées. Voici ce qu'en dit André Comte-Sponville dans une conférence de l'Institut Diderot, avec Frédéric Lenoir. Citation de donc André Comte-Sponville. « J'aime bien le geste qui purge le monde de tous ces faux dieux, qui refusent les idoles. Et je me demande si ce retour au paléolithique, à une forme de naturalisme religieux, cette adoration de la déesse terre, ne présente pas le risque d'un retour de l'idolâtrie, une idolâtrie de la nature, du vivant. N'est-ce pas une façon de trahir l'héritage des monothéismes auxquels on peut essayer de rester fidèle, y compris quand on n'y croit plus ?» La question centrale du baptême qui donne un sens à tout selon l'Église. Citation. Les baptisés sont ainsi pour dire des êtres qui vivent après quelque chose de leur mort et avec quelque chose de la résurrection finale. Cela fait partie de leur histoire. Il est frappant de constater que la question centrale dans le baptême est la question de la mort, alors qu'on pourrait penser qu'au début de la vie, ce n'est pas la question essentielle pour l'humanité. Mais pour l'Église, c'est le fondement de sa théologie. Un enfant non baptisé sera alors dans les limbes s'il meurt et errera pendant l'éternité. Alors on l'ondoie vite fait pour qu'il échappe à cela. Le centre de la doctrine de l'Église a toujours été le dolorisme. Non seulement on est pour souffrir dans la vallée de larmes et de l'ombre de la mort, mais l'Église sans repaix, c'est son fond de commerce. On sait aussi que le fondement de la religion chrétienne, ce qui n'est pas le cas à ce point de toutes les religions monothéistes, c'est la peur de la mort et la question de la résurrection d'entre les morts. D'où la formule célèbre « La première religion a été créée par la rencontre du premier mythomane avec le premier naïf. » Si, comme écrit l'apôtre Paul, « baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons tous été baptisés », le baptisé est cet être paradoxal qui a déjà sa mort derrière lui, celle-ci coïncidant avec sa naissance en Dieu. C'est une citation extraite de l'éditorial du Communio, du tome 50. On sait que l'Église, devant l'effondrement des baptêmes, essaie de nous chanter une petite chanson sur le miracle des adultes se faisant baptiser. mais Communio est obligé de constater que cela ne fait pas le poids avec la chute vertigineuse des baptisés à la naissance, ce qui était une convention sociale que l'Église n'a pu préserver. C'était le temps béni où l'Église et la société donnaient presque l'impression de se confondre, d'où le commentaire cité de Maurice Merleau-Ponty, « Les chrétiens sont de mauvais révolutionnaires et les conservateurs le sûrs, incapables de changer les choses et aussi de les conserver en l'état ». La question du baptême forcé des enfants n'a jamais pu disparaître au sein de l'Église, car cette pratique heurtait de plein fouet la liberté de choisir et de vivre pleinement sa conversion. Le premier qui s'y est opposé publiquement est Tertullien, qui a toujours contesté cette pratique. Au moment de la réforme de Luther, seuls les anabaptistes demanderont que le baptême soit réservé aux adultes, car il n'avait pas de sens dans une possession de foi, dans une profession de foi, pardon, comprise et admise par la personne qui le recevait. Cette exigence s'est étendue ensuite aux utéristes, mennonites, amish, et est très répandue chez les évangélistes, aujourd'hui, qui privilégient le second baptême dit supérieur. Un autre père de l'Église, et de taille, va refuser le baptême forcé pour les enfants, c'est Hans Urs von Balthasar, qui était une éminence d'envergure, influent au Concile Vatican II et très proche des papes Jean-Paul II et Benoît XVI, et par ailleurs un des fondateurs de la revue Communio. Ce n'est donc pas un désaccord à la marge de l'Église. Contraindre a toujours été la méthode de l'Église depuis le fameux « compelle in fare », forcez-les à entrer, de saint Augustin. Cela a été rappelé par Pastoralis Actio numéro 9 en juin 1980, qui est une injonction d'agir. Citation. On oublie que tout homme, même non baptisé, a envers Dieu, comme créature, des obligations imprescriptibles que le baptême vient ratifier et élever dans l'adoption finale. Éric Verden, président de la Conférence des évêques de Scandinavie, dit clairement « Le baptême n'est pas seulement une expérience spirituelle. Cela entraîne un aspect juridique contraignant dans le droit canon. D'ailleurs, pour montrer le caractère irréversible que cela entraîne et contre lequel la libre pensée agit dans son combat pour le respect du RGPD, c'est-à-dire du Règlement général sur la protection des données, il indique qu'après le baptême, la formule du prêtre doit être « Voilà, c'est fini, vous serez toujours catholique, la seule autre chose que vous puissiez faire maintenant, c'est être un catholique déchu. » Fin de citation. On est au cœur du cléricalisme. Pour l'Église et toutes les institutions à sa botte, tribunaux, cours de cassation, CNIL, Conseil d'État, le baptême est un fait historique que l'on ne peut effacer. On peut faire effacer toute trace d'adhésion à un syndicat, parti, association, obédience maçonnique. Mais avec l'Église catholique, a un privilège suprahumain. Personne n'a le pouvoir de faire effacer son baptême des registres paroissiaux. Combat de la libre pensée pour que le droit de faire effacer toute appartenance passée soit traité à égalité est un véritable combat laïque. Car la laïcité, c'est refuser aux religions qui passent le droit de gouverner l'humanité qui dure. Ce n'est point consentir la soumission de la raison à un dogme immuable, ni l'abdication de l'esprit humain devant l'incompréhensible. C'est ne prendre parti d'aucune ignorance ni d'aucune misère, c'est livrer bataille au nom de la justice. C'est une citation d'Ernest Lavisse. La communion et la continuité des baptêmes forcés, c'est toujours la volonté cléricale d'imposer sa volonté. Pour l'Église, il faut absolument démontrer que la communion, le communio appelle de ses vœux, n'a rien à voir avec l'unité de comportement dans la société, mais que c'est quelque chose de plus haut, car l'État, citation, prétend administrer les libertés au lieu de les susciter. Fin de citation. Ce qui conduit, entre autres, à l'euthanasie, toujours présentée par l'Église comme une fausse liberté. Ce qui est promu, c'est la communion dans l'Église catholique et uniquement cela. Comme l'œcuménisme, c'est un impôt à la chasse aux autres religions. Et de rappeler ce que disait Charles Péguy pour expliquer la différence entre la mystique et la politique. La mystique républicaine, c'était quand on mourait pour la République. La politique républicaine, c'est à présent quand on en vit. La mort, toujours la mort, il n'y a que cela de vrai pour ces gens-là. C'est vraiment leur fond de commerce. Je vous en renvoie à mon article sur Péguy dans La Raison de septembre 2023, des hussards noirs aux pantalons Garance. Pour bien expliquer ce que n'est pas la communion, il y a une interview de Francis Russell-Hidiger, membre de plusieurs académies pontificales. Citation. « Il est vrai que nous héritons aujourd'hui de la philosophie sociale moderne, Hobbes, Locke, dans laquelle tout l'univers social est reconstruit sur la base de l'individu préalablement mis à part et isolé par l'analyse. La société apparaît ainsi comme le simple agrégat d'individus qu'il faut chercher à faire coexister et non pas comme une entité qui transcende les individus qui la composent et leur permet de s'accomplir en tant que des personnes, c'est-à-dire comme des êtres qui ne sont pas accidentellement, mais essentiellement en relation les uns avec les autres, voire en communion les uns avec les autres, quand c'est l'amour de Dieu qui les unit. C'est pourquoi il faut en effet une méthode pour réapprendre à penser ce que l'individualisme moderne nous a fait oublier. Fin de citation. Quelle est liberté, voilà l'ennemi, c'est l'individu. Voilà, l'individu, voilà l'ennemi. Ce qui est logique, car les unes vont avec l'autre. L'individu n'a de place que dans le troupeau de Dieu, mais comme disait Paul VI à propos de l'œcuménisme, il peut y avoir plusieurs troupeaux, il ne peut y avoir qu'un seul berger. Fin de citation. La question de la communion amène tout naturellement à poser le problème de l'unité des églises chrétiennes. Ce sujet, Théodore Dietet, pasteur ordonné de l'église régionale de Württemberg et professeur de recherche principal à l'Institut des recherches œcuméniques de Strasbourg, est cité. Et voilà ce qu'il dit. Au XXe siècle, le siècle de l'œcuménisme, les églises ont quitté l'Égypte des conflits confessionnels, mais elles ne sont pas encore arrivées dans la terre promise de la communion. Dans le désert, la tentation est grande de retourner aux marmites de viande de l'unicité confessionnelle. Fin de citation. Konrad Reisel, théologien protestant allemand et secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, poursuit sur le même chemin. Et il dit, au cours de l'histoire de l'Église, des dissidents ont toujours été exclus ou violemment persécutés en invoquant l'unité de l'Église. Oui, on peut défendre la thèse selon laquelle la plupart des divisions dans l'histoire de l'Église ont été les conséquences d'une pensée unitaire exagérée. La diversité ne devient un problème que lorsqu'elle est mesurée à l'aune d'une forme normative de l'unité. Ainsi, faut-il se demander si le débat œcuménique ne devrait pas renoncer à la notion d'unité de l'Église en raison du caractère équivoque et abstrait de cette notion. Fin de citation. La conception d'un seul pasteur pour plusieurs troupeaux est rigoureusement condamnée par les protestants et en premier lieu par l'Église évangélique d'Allemagne, car elle soulève la question de la revendication du Vatican de la primauté du pape, héritier de Saint-Pierre, sur toutes les autres religions. On peut aussi ajouter, dans les opposants irréductibles à toute forme d'unité théologique, les Quakers, qui considèrent que les Saintes Écritures sont librement interprétables au gré de chacun et ne peuvent constituer un dogme imposable. Quant aux Mormons, ils considèrent que les composantes de la Sainte Trinité sont des catégories à part et distinctes, ce qui en fait un polythéisme de fait. Si les écrits néo-testamentaires n'ont plus force de loi dans la théologie chrétienne, le fondement même de l'Église catholique s'effondre devant ce libre arbitre et cette libre interprétation de la Bible, ce qui est le fondement du protestantisme. Il y a donc une totale incompatibilité entre l'œcuménisme protestant qui vise à l'unité des églises protestantes et assimilées avec celui prôné par le Vatican, avec l'Église catholique et sous la férule du Vatican et de tous les dogmes imposables. Communion constate quelque peu amer dans un article intitulé « La recherche de l'unité à contre-courant du pluralisme contemporain » du cardinal Kurpusch, évêque de Bâle, une conviction profonde chez les protestants. Et voilà la citation. La réforme et les divisions qui ont suivi au XVIe siècle ont marqué le début du pluralisme dans la chrétienté latine, qui a trouvé son expression dans la concurrence permanente entre des églises confessionnelles indépendantes, a rendu le christianisme compatible avec la modernité sous la forme du protestantisme et ne doit pas être mis en question par une nouvelle recherche d'unité. La réforme et les divisions ecclésiales qui ont suivi ne sont plus alors considérés comme une faute et une tragédie, mais uniquement comme un succès et un progrès. Fin de citation. C'est une évidence que la libre pensée partage. Le chemin de la modernité passait par le protestantisme et comme l'Église catholique l'a empêché, il y a eu la Révolution française profondément antichrétienne. Jean Jaurès a eu raison de dire au moment du débat de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État, la France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Il fallait briser l'Église catholique pour avancer, et certainement plus pour faire une autre Église, comme au temps de la Réforme, ou l'échec programmé de la Constitution civile du clergé. Les thèses du Vatican sur l'œcuménisme est connue. L'Église est le corps mystique du Christ qui en est la tête. En conséquence, il ne peut y avoir qu'un seul corps, celui de l'Église catholique, universelle, apostolique et romaine, qui concentre en elle-même l'unité des Églises en un seul corps. Et Comignou ajoute avec un certain humour involontaire, c'est une relation d'époux à épouse, alors la conséquence logique de la foi s'impose, le Christ n'est en aucun cas polygame, mais monogame et est issu à son unique épouse. Fin de citation. Dans ce numéro de mars-juin 2025, la Revue catholique internationale fait le vœu que le 1700e anniversaire du Concile de Nicée soit une étape vers l'unité des Églises dans une seule Église universelle, donc catholique. Le moins que l'on puisse dire est que ce vœu n'a point été exaucé par leur Seigneur et qu'il est resté pieux. Je vous renvoie à la raison de juin 2025 et à notre revue Sapere Aude, numéro 6 du cercle international d'exégèse rationaliste sur le Concile de Nicée. Un peu d'histoire sur la revue catholique internationale Communio. Ce numéro consacre un dossier intéressant sur le 50e anniversaire de sa création, 1975-2025. En 1968, Paul VI constitue une commission théologique internationale afin d'aider le Saint-Siège et principalement la Congrégation pour la doctrine de la foi, ex-Inquisition, dans l'examen de la question théologique jugée de grande importance. Le cerveau créateur de Communio, Hans Urs von Balthasar, va s'en servir plus tard de vivier pour sa future revue. Il y a dans cette commission de très grandes pointures catholiques, dont plusieurs vont être les parrains et les contributeurs dans Communio. Créée en 1972, elle n'existe au début qu'en Allemagne, d'où la place de Joseph Ratzinger dans la revue, et en Italie, puis aux USA, puis en Yougoslavie et en France en 1975. Il faut trois tentatives pour sa création en France. Et c'est le cardinal Danielou qui porta le fardeau en misant sur de jeunes universitaires catholiques comme Jean Duchesne, exécuteur littéraire du cardinal Lustiger et de Louis Bouillet, et Jean-Luc Marion, élu à l'Académie française le 6 novembre 2008 au fauteuil de Jean-Marie Lustiger et nommé membre du Conseil pontifical pour la culture en 2011. Pour Hans Urs von Balthasar, l'idée est de faire une nouvelle revue du genre Concilium, fondée en 1963 pour prolonger Vatican II et à laquelle il participa. C'est donc cette idée de communion qui inspira le titre de la revue quasi éponyme. Mais il fallait d'une part se distinguer de ce que faisait l'Église anglicane à travers le monde qui avait mis ce concept en avant et se démarquer d'autre part de la revue de la communauté œcuménique de Thésée qui n'était pas dans le même esprit ni la même démarche. En termes galants, ces choses-là sont dites. Il fut donc rajouté des adjectifs catholiques et internationaux. On ne jouait pas dans la même cour, et en plus, le titre était en latin. Concilium avait ouvert le chemin. Mais quand cette revue va s'orienter vers une ligne de modernisation de l'Église réalisée par elle-même, il fallait un contre-feu, et quoi de meilleur qu'une revue concurrente. « Il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil », avait écrit l'Ecclésiaste. Alors Comio va promouvoir l'aggiornamento à partir du ressourcement dans la pensée de Joseph Ratzinger, qui, quand il sera devenu Benoît XVI, fera beaucoup couler d'encre sur sa définition de concilium. Face à l'évolution des paramètres sociologiques des sociétés modernes, tels que la sécularisation, l'accélération, l'individualisation et le développement du pluralisme, mais pour éviter que le catholicisme ne se liquéfie dans une assimilation au monde moderne, il faut continuer à raconter les histoires bibliques et à remettre en pleine lumière la force qu'elle possède pour l'orientation de notre vie. Fin de citation. Et pour cela, se rappeler de ce que disait Gustav Mahler, la tradition est la transmission du feu et non l'adoration des cendres. C'est ce que Karol Wojtyla, autre soutien actif de la revue, traduira quand il deviendra Jean-Paul II par la seconde évangélisation. Lénine avait dit bien avant eux, moins mais mieux. À la discrétion du Père, dans ce numéro de Communio, la revue va se torturer les ménages pour essayer d'expliquer pourquoi les desseins de Dieu le Père sont totalement abscons pour les fidèles. Une première explication est donnée qui laisserait veuve. Citation. « Dieu n'a pas voulu écraser l'humanité par la splendeur de son être. Il ne se communique pas à des esclaves apeurés, mais à des enfants remplis de confiance à qui il veut conférer la plénitude de son amour. » Fin de citation. C'est toujours la quadrature du cercle sur le péché originel qui revient sous toutes les formes possibles. C'est Dieu, parfait en toutes choses, qui est le créateur de toutes choses, qui a inventé le péché. C'est lui qui va tenter Adam et Ève et les laisser commettre l'acte qui produira la chute, alors qu'il aurait pu les en empêcher, et tout cela pour manifester la plénitude de son amour. Curieux amour et pédagogie paternelle qui crée lui-même de lui-même le problème et qui le reprochera ensuite à l'humanité pour l'éternité. Et ensuite, Pour réparer ce qu'il a commis, il fera mourir son fils dans de terribles tortures et souffrances pour expier le péché qui a en fait commis lui-même. On n'aimerait pas être dans cette sainte famille. Voilà, en fait, il reproche à Ève et Adam de ne pas avoir deviné sa turpitude, puisqu'il ne s'impose par la force à chacun de déchiffrer, discerner donc les signes de la présence de Dieu dans sa propre histoire. Dieu est un pervers narcissique, car en plus, il veut qu'on l'aime pour sa turpitude et sa vilenie. Il s'agit d'entrer dans une initiation progressive, là où le secret se fait lieu de la rencontre transformante du Créateur et de la créature. Calvin et Luther rajouteront à ce secret celui de la prédestination. Qui est élu pour être sauvé? Et ce, dans le secret de l'esprit qui donne une certitude à l'intéressé qui doit se débrouiller tout seul pour le savoir, dans simple affaire. Et ceci, selon Florent Urfels, qui est vicaire, pour nous attacher plus étroitement à celui qui est dans le secret. Voilà comment Calvin définit la prédestination. Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu pour lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire d'un chacun homme, car il ne les crée pas tous en pareille condition, mais ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à l'éternelle damnation. Ainsi, selon la fin à laquelle est créé l'homme, nous disons qu'il est prédestiné à mort ou à vie. C'est donc cela le secret de Dieu. Le thème du secret de Dieu est central dans la théologie mystique et apophatique de celui qu'on désigne habituellement comme le pseudo-Denis, présente comme le disciple de Paul. Cette théologie apophatique se dit d'une théologie qui approche la connaissance de Dieu en partant de ce qu'il n'est pas, plutôt que de ce qu'il est, selon Jean Reynard, membre du CNRS et de l'Institut des sources chrétiennes. Essayer de trouver quelque chose à partir de ce qu'il n'est pas n'a pas l'air simple. En 1956, en Pologne, au moment du soulèvement du peuple contre la dictature stalinienne, Kolakowski écrivait un poème. Qu'est-ce que le socialisme? Il commençait par écrire « Nous vous dirons ce qu'est le socialisme, mais d'abord nous devons vous dire ce que n'est pas le socialisme. C'est une question sur laquelle autrefois nous avions une idée bien différente de celle que nous avons aujourd'hui. Bien, donc le socialisme n'est pas. Il s'ensuit une liste de tout ce qu'il n'est pas aux antipodes de la liberté et qui définit un état de dictature contre le peuple et les travailleurs. Et il se termine par « Voilà la première partie. Maintenant, attention. » Nous allons vous dire ce qu'est le socialisme. Bien, le socialisme, c'est une bonne chose. On est un peu dans la même chose avec Dieu et l'Église. On reste toujours sur sa fin, que l'on peut aussi écrire fin. La communion commencée par le baptême, prônée par les églises chrétiennes, dont principalement celle dite catholique, est aussi une sorte de prédestination organisée. Il y a le peuple de Dieu, qui est promis à la vie éternelle, s'il est baptisé. Sinon, pour les autres, c'est l'enfer et ou les limbes. N'est-ce pas contradictoire avec l'humanité en marche vers sa destinée et son avenir? Comme l'indiquait Charles Darwin, à mesure que l'homme avance en civilisation et que les petites tribus se réunissent en communauté plus large, la plus simple raison devrait aviser chaque individu qu'il doit étendre ses instincts sociaux et ses sympathies à tous les membres d'une même nation, même s'ils lui sont personnellement inconnus. Une fois ce point atteint, il n'y a plus qu'une barrière artificielle pour empêcher ses sympathies de s'étendre aux hommes de toutes les nations, de toutes les races. Nous en terminons avec cette citation de Charles Darwin. Cet article, vous pouvez en prendre connaissance à la fin de cet article, donc dans le nouveau numéro de La Raison, que vous pouvez procurer auprès des militants de Nouvelles Alères de la Libre Pensée. Merci et à la semaine prochaine.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.